Bonjour Laurent Wolff.
Bonjour.
Merci de nous consacrer ce temps pour qu'on fasse non pas le tour du propriétaire, mais qu'on relie vos multiples facettes. Je le répète, vous êtes dessinateur, sociologue, journaliste, critique d'art. Et c'est d'ailleurs ce que vous écrivez dans votre CV, c'est votre signature électronique de vos mails. Cette espèce d'hydre à quatre têtes. En fait, on se rend compte en vous écoutant que s'il y a quatre spécialités, elles sont finalement les diverses facettes d'une seule et même chose. C'est-à-dire que vous êtes réunifié à l'intérieur de ces quatre disciplines.
Je suis réunifié, c'est ce que je pense maintenant. Je n'ai pas toujours eu cette impression-là. C'est un travail de se réunifier. Il ne faut pas pleurnicher sur son éclatement, sur le fractionnement de sa personnalité. C'est comme ça, on va trouver le fil après. Je crois qu'il y a une impatience. Je vois bien, même avec mes enfants et avec les gens qui fréquentent, il y a une incroyable impatience à trouver un sens à la vie. Alors, il faut accepter que, finalement, on sacrifie un bout de soi sans le sacrifier. On ne peut pas prévoir qu'on ne l'a pas sacrifié. Quand je me suis mis à la peinture...
Ah bah tiens, ça c'est bien, parce que justement on va en parler dans cet épisode.
Oui, mais quand je me suis mis à la peinture, je savais pas que finalement je faisais la même chose. Je savais, comme quand j'étais enseignant en sociologie, que j'utilisais des œuvres de peintres pour expliquer des problèmes sociologiques. Ça, oui. Je savais qu'on pouvait donc interpréter les œuvres d'art comme des
exactement. Comme les grilles de lecture.
Hein. Oui, comme grilles, exactement comme on utilise un manuel de sociologie. Ça, je savais ça. Mais je savais pas qu'on pouvait le faire. Et je savais pas non plus comment les artistes articulaient cette chose-là. Parce que ce qui est très embêtant, c'est qu'il faudrait pas écouter les artistes. Jamais.
Alors, c'est ce que vous dites, hein.
C'est ce que je dis
après. Il faut se méfier.
Après trois heures, où je passe mon temps à bavarder, je dis surtout ne m'écoutez pas. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on fait? On raconte l'histoire qu'on se raconte. Quelqu'un qui regarde une œuvre d'art doit trouver la clé de cette œuvre d'art par ses propres moyens. L'artiste n'est pas une solution. Moi, je me souviens que quand j'étais chef de la rubrique culturelle au journal Le Temps...
Donc, à partir des années 90.
Ouh là là, oui, c'est bien plus tard. Ben, les années 90, les années 2000.
Oui, alors, c'est le nouveau quotidien, les 90.
Oui, mais là, j'étais pas chef de rubrique. Mais quand j'étais chef de rubrique, je me battais contre les interviews d'artistes. Contre l'idée que... c'est l'artiste qui donne la clé intellectuelle de ses œuvres. Et ça, c'est une chose extrêmement récente. Ça n'existe que depuis le XXe siècle. Auparavant, c'était pas les artistes qui donnaient la clé
intellectuelle.
Voilà, c'est absolument. Diderot, c'est le meilleur
exemple. Mais oui.
Et ça, c'est vrai jusqu'aux années 50, pratiquement. Hein, c'était, pour le pire, Breton, et pour le meilleur, Diderot. Voilà. Donc, mais quelqu'un qui parlait. Alors, tout d'un coup, c'est la voix des artistes qui prend le dessus. Alors bon, je vous prie de m'excuser, chers auditeurs, de continuer à parler, mais...
C'est l'exercice.
Ben, hein. C'est l'exercice, ouais. Mais le doute règne, il faut toujours en douter. Il faut toujours avoir le point de vue qui contrarie. Alors bon, j'en reviens à ma...
Cette vocation.
Ouais. Ben, c'est pas une vocation, j'ai roulé comme un caillou dans la pente.
C'est ça.
Voilà, c'est-à-dire qu'il se passe qu'en 1970... je commence à faire de la peinture sur toile. Je fais toujours comme sociologue. Donc, j'ai toujours employé salarié de l'École des hautes études en sciences sociales. Et alors là, il va se présenter, je dirais, l'avantage du deuil. C'est-à-dire que j'hérite d'une somme qui n'est pas considérable, mais d'une somme qui me permet d'envisager...
Après la mort de votre mère.
Après la mort de ma mère, j'hérite d'une somme qui me permet d'envisager de vivre un ou deux ans... sans dépendre d'un emploi salarié. Il faut quand même se représenter ce qu'était la société en 1970-71. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on sache qu'une chose pareille a pu exister. Il était extrêmement facile de trouver un travail, et donc il était extrêmement facile de le quitter. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, voilà, j'avais un peu cette somme d'argent, je me suis dit, ben... je vois que j'ai des capacités à peindre.
Mais ça, tout seul, vous vous dites ou bien vous montrez
non,
votre travail?
Non, je ne dis personne, je ne montre pas. Je monte pas, je regarde. Bon, on a toujours. Bon, j'avais pas ma mère, mais on a toujours des amis, des amoureux, des amoureuses qui trouvent génial ce qu'on fait. Hein. Donc ça sert à rien. C'est satisfaisant parce que s'ils trouvaient pas génial, ça serait très frustrant. Mais c'est pas une garantie. Donc j'avais personne. Mais moi, je voyais bien que ça se passait bien. Je voyais bien que c'était facile. Je voyais bien que j'étais heureux. C'est surtout ça qui était important. J'étais bien. Vous savez, la peinture, le dessin. C'est une activité manuelle. Moi, j'ai toujours été un manuel. Ça paraît bizarre pour quelqu'un qui bavarde autant, mais tout petit, j'avais une vocation de balayeur. J'ai une grande vocation de balayeur. Et quand j'étais petit, je prenais mon balai à la Chaux-de-Fonds, qui est quand même une ville très civilisée, parce qu'on dissuade pas les enfants de faire des choses pareilles. Je prenais en hiver ma pelle et en été mon balai pour accompagner les balayeurs des rues. Évidemment, ça, c'était pas une vocation qui aurait bien plu à ma famille, mais enfin, toujours est-il que j'adorais ça. J'adorais la trace propre du balai. Alors évidemment, dessiner, c'est ça. Dessiner, c'est faire une trace propre. Une trace qu'on maîtrise.
Et il y a le mouvement aussi, non ?
Voilà, le mouvement, donc c'est corporel, c'est physique.
Physiologique, ouais.
Voilà, on est dans son corps, on est dans la respiration, on est bien. Alors ensuite, on peut raconter tout ce qu'on veut sur les crises morales, intellectuelles, la souffrance psychologique. Mais je ne connais pas un artiste aussi souffrant, raconte-t-il aux autres, qui n'ait pas cette jouissance du faire. Et moi, je suis un peu triste pour ceux qui utilisent l'ordinateur, parce que alors j'espère qu'ils trouvent...
Il y a d'autres moyens, oui.
Oui, je pense qu'ils ont des tables, des plaquettes, des choses comme ça. Enfin, toujours est-il que je sens que ça va bien, que je suis heureux, et je me dis, ben, je ne sais pas peindre. Alors, j'ai cet argent, et je me dis, ben, je vais consacrer le temps où je dépense cet argent à apprendre. Et puis, comme j'avais fait quand même beaucoup d'universités, que j'avais même enseigné, j'avais une grande méfiance à l'égard des établissements d'enseignement. Je voyais bien qu'on pouvait apprendre par soi-même. Donc, j'ai décidé de me débrouiller par mes propres moyens.
Mais vraiment, c'est entre vous et vous que ça se passe.
Oui, c'est entre moi et moi. Personne, il n'y a aucun jugement.
Il n'y a pas d'autres artistes que vous rencontrez, non ?
Rien. Mais moi, les autres artistes qui étaient juges, c'était les artistes que je connaissais. C'était Paul Klee, c'était Kandinsky. Voilà, c'était les artistes que j'aimais. Je prends ces deux-là, c'était Cézanne. Voilà, c'était eux, mes professeurs. Et c'est quand même les autres artistes qui sont les professeurs de tous les artistes. Quel que soit l'outil qu'ils utilisent, qu'ils fassent des installations, de la vidéo, les vrais professeurs des artistes, c'est les artistes. C'est les œuvres. C'est pas les artistes, c'est les œuvres. Donc moi, j'avais quand même une culture artistique assez étendue. Je connaissais bien l'histoire de l'art, je connaissais bien la peinture. J'avais visité pas mal de musées parce que chez nous, ça se faisait. J'avais trouvé ma voie en aimant l'art abstrait, alors que c'était pas vraiment ce que préférait mon père. J'ai le souvenir d'une visite à 17 ans du Gemeentemuseum à Amsterdam et de ma découverte de Mondrian et de Malevich.
Vous adorez ?
J'ai cru que j'avais trouvé Dieu.
Ah ouais.
Voilà, très carrément.
Ah ouais.
Voilà. J'ai rencontré Dieu, quoi. C'était comme quand j'ai entendu Thelonious Monk pour la première fois. C'était une chose absolument inimaginable.
Ouais.
On pouvait donc faire ça. Mm. Hein. Je trouvais un peu chiche Paul Klee, pour tout dire. Un peu petit, un peu étroit d'épaule. Mais alors, quand j'ai vu les Mondrian et puis surtout Malevich, je me suis dit, putain, mais les Malevich, donc de la grande époque suprématiste, je me suis dit, ça, on peut faire une chose pareille. Hein. On peut faire ça. Alors ça, et donc, je me suis dit, voilà, je vais apprendre. Et donc, ça se passe en 71. J'ai passé tout l'été à peindre et à dessiner. L'université recommence. Fin octobre arrive. Les cours commencent en novembre. Bon, je continue à aller à mon labo. Enfin, je sais pas, je faisais les heures juste nécessaires. Je vois arriver novembre et je vois arriver les cours parce que j'avais quand même un séminaire de doctorants où j'avais 25 doctorants en face de moi. Fallait bosser quand même un peu. Et puis, je vois arriver ça, ça me tombe dessus. Et puis, je me dis, c'est le moment. Et donc, je me souviens très bien, c'était un jeudi. Le mercredi soir, je décide d'arrêter.
Donc, d'annoncer à votre...
D'annoncer à mon patron le jeudi matin. Je me rends au labo. Je demande rendez-vous avec Chambard de Lauve. Et je lui dis, ben écoutez, Chambard, on l'appelait comme ça, ou Paul-Henri, on l'appelait Chambard. Chambard, j'ai décidé d'arrêter. Demain, je viens prendre mes affaires et lundi, je reviens pas. Et je m'attendais à ce qu'il me dise, vous pouvez pas me faire ça. Il venait de me renouveler mon contrat. Vous pouvez pas me faire ça, patati.
Et vous dites pas que vous peignez. Vous dites rien.
Non, il me dit, vous allez faire quoi? Et je lui dis, je vais faire de la peinture. Et il me répond, quelle chance vous avez.
Il me dit même, je vous comprends.
Je vous comprends, quelle chance vous avez. Et j'ai appris plus tard que lui aussi avait essayé de faire quelque chose.
C'était le rêve.
J'étais
de
le
votre
rêve.
Prof.
Voilà, ben c'est le rêve des autres.
Ah, c'est ça.
Alors, ouais. Le rêve des autres était arrivé. Ben, j'ai découvert que c'était ça. Et donc, effectivement, le vendredi, j'ai pris mes affaires. Et après avoir pris mes affaires, je me suis retrouvé dans mon studio. Et je me suis organisé. J'ai loué un atelier d'artiste pas loin de Chantilly, dans un petit bled. À l'époque, c'était assez loin de Paris. Et j'ai commencé, j'ai vécu tout seul, hein, je voyais personne, et j'ai commencé à apprendre la peinture, à lire des manuels, à visiter des expos. Puis surtout, voilà ce que j'ai fait pendant ces années-là. J'ai appris la technique et j'ai nettoyé mon esprit.
Désencombrer.
Désencombrer. Et alors ça, c'est une chose que je recommande à tous ceux qui veulent faire de l'art. Tant que votre esprit est encombré de nécessité, de ce que vous croyez très très important, vous y êtes pas. C'est pas là. Désencombrer. Videz-vous, videz-vous, videz-vous. Et donc j'ai commencé, ça allait assez vite. Je suis pas Raphaël, hein, je suis pas doué pour le dessin, je suis pas Poussin, j'appartiens à une génération d'artistes pour qui la maîtrise du métier est la maîtrise des choses et pas la maîtrise des codes. Voilà comment j'ai expliqué ça. Jusqu'à peu près en 1860-65, c'est le triomphe de l'art académique, c'est-à-dire de l'imitation des anciens. Donc ça favorise ceux qui savent copier, qui savent dessiner. En 1865 ou 67, je me souviens plus, l'Académie, c'est-à-dire les autres artistes, perdent le pouvoir sur la nomination des professeurs, la distribution des grands prix et donc la transmission des savoirs. Et donc peuvent se déclarer peintres à partir de ce moment-là, des gens qui sont pas calibrés sur le même modèle. Des gens qui, ça va donner Marcel Duchamp, un type qui sait pas dessiner.
Mais même Manet déjà, qui voilà, déjeuner Manet, sur l'herbe.
Oui, mais... le Manet dont Baudelaire a dit « Vous êtes le premier dans la décrépitude de votre art ». Ce qui était super, super sympa. Manet a pas tellement apprécié. Il se plaignait tout le temps, ce pauvre Manet. Bon, mais c'était pas un virtuose. Il y a des virtuoses. Monet était un virtuose. Manet, pas du tout. Et donc, on entre dans une autre ère, dont l'exemple parfait est un artiste que j'admire énormément, qui est Marc Rothko, le peintre qui ne sait pas peindre.
Et pourtant, qu'est-ce qui fait vibrer la peinture,
hein? C'est probablement un des plus grands peintres du XXe siècle. Mais si vous regardez la totalité de l'œuvre de Rothko, vous voyez qu'avant qu'il devienne Rothko, c'était un peintre qui ne savait pas peindre. Mmh. Il a peint le métro new-yorkais.
C'est assez malhabile, l'état franc.
Ce n'est pas de la très bonne peinture. Ouais. Mais c'est quand même devenu un très grand peintre. Donc on peut, j'ai compris, qu'on pouvait devenir peintre sans maîtriser la peinture académique et que ce n'était pas du tout important, que ce n'était pas ça du tout l'enjeu. Donc j'ai commencé à vider mon sac, à peindre. Et puis voilà, c'est tout. Je ne me posais pas trop de questions. De temps en temps, des gens passaient chez moi, donc dans cette petite maison-là, c'était plutôt grande d'ailleurs, et ils venaient habiter quelques jours là-bas, près de Chantilly. Et puis j'ai progressé, j'ai fait un peu de sculpture. Donc les choses avançaient, puis soudain, plus d'argent dans la caisse. Donc,
il faut exposer, il faut vendre.
Exposer, non, là, dans un premier temps, exposer, la question ne se posait même pas, parce que exposer où, exposer qui, quand vous n'avez pas fait le cursus, le contact avec le marché est extrêmement difficile à prendre, donc rentrer à Paris et retrouver un boulot de sociologue. Donc pendant quelques années, à partir de 1974, j'ai alterné les périodes où je travaillais, où je ramassais suffisamment d'argent, et ensuite je me consacrais à plein temps à la peinture. Mais il se trouve que j'ai bien fait. Parce qu'il m'est arrivé un truc absolument sensationnel. En 1975, je suis engagé comme sociologue. Donc une année, pas tout à fait une année après être revenu à Paris, j'étais engagé par un centre culturel qui s'appelait le Centre culturel du Marais, qui est disparu depuis bien longtemps, avec des gens très amusants, très sympas. Et ils m'ont engagé comme sociologue parce qu'ils avaient des problèmes dont ils pensaient qu'ils pouvaient être résolus par un sociologue. Peu importe. Mais ils m'engagent et puis ils me disent « Ah, écoute, Laurent, on a fait des animations au milieu scolaire. Depuis plusieurs années, on a réuni 5000 photographies prises par des enfants de 10 ans, à qui on confiait un appareil de photo automatique, qui s'appelait à l'époque l'Instamatic. Ces enfants ont pris des photos. On a l'impression que c'est génial, on voudrait les montrer, on voudrait faire un document. Est-ce que ça t'amuserait d'analyser ça ? Ah, je dis, oui, ça m'intéresse.
5000 photos.
5000 photos prises par des enfants d'une dizaine d'années. Et donc, je me retrouve avec ce stock, et là, je tombe.
Révélation,
je tombe des nues. C'est-à-dire que tout d'un coup, des enfants tous différents les uns des autres, dans des localisations de la région parisienne toutes différentes les unes des autres, de niveau social tous différents les uns des autres. Alors, il y avait une constante, c'était l'appareil photo instamatique et les animateurs. Alors, évidemment, pour le sociologue, est-ce que ça vient des animateurs ? Alors, je constate des régularités absolument incroyables. Alors, la première régularité qu'on constate, elle est toute simple, hein, pour les photographies d'enfants, c'est que la ligne d'horizon est beaucoup plus basse. Parce que les enfants sont beaucoup plus petits. Donc, il y a toute une série de régularités qui sont liées à la taille. Notamment, le fait qu'il y a souvent des barrières au premier plan, le fait que la ligne d'horizon est basse. Mais, ça suffit pas. Le fait que la ligne d'horizon soit basse, c'est-à-dire que la taille soit déterminante dans le choix des images, c'est déjà une information importante. La deuxième chose, c'est que les objets reviennent sans arrêt.
C'est-à-dire ?
Des portes, des fenêtres, des fêtes de maison, des toits, des toitures, des sortes de couloirs, des rues qui se referment. Et tout d'un coup, je me dis, ben, y a des régularités, donc je me mets à classer ces photographies. Alors, il y a des éléments. Quand on dit la ligne d'horizon est basse et il y a souvent des barrières au premier plan parce que les enfants sont petits, ben, c'est une donnée fondamentale de la représentation de l'espace. C'est le corps qui détermine la représentation de l'espace.
C'est l'échelle, ouais.
C'est l'échelle, c'est la taille. La taille. Donc, je réfléchis et je me dis, finalement, ce que je vois, c'est la représentation du corps de celui qui photographie. Ce que je vois sur l'image, c'est le corps de celui qui photographie. Et donc, le lien entre faire de la peinture, représenter ou présenter quelque chose, que ce soit figuratif ou abstrait, c'est un exercice qui vient du corps, c'est une représentation du corps. Et donc, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? J'ai fait ma classification, j'ai pondu un rapport, j'ai fait des conférences une ou deux fois ou trois fois même sur ce truc-là. Je me souviens qu'il y en a une que j'avais donnée dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, bref. Mais surtout, j'ai commencé à faire des peintures. C'est-à-dire à reprendre. J'avais fait des schémas pour expliquer les différents types d'espaces que photographiaient les enfants. Et j'ai commencé à peindre ces différents types d'espaces. Au même moment, j'étais arrivé à un tournant technique de mon travail de peintre. J'avais fini ce que je considérais comme mon apprentissage. Et je me suis dit, mon gaillard, c'est le moment de réaliser la fameuse idée d'autonomie que tu avais au début. Dans une autre vie.
Bien sûr.
Hein, dans une vie de syndicaliste étudiant de 20 ans à l'université de Genève. Concevoir, produire, distribuer. La question, c'est-à-dire lutter contre quoi? Contre la division du travail. Et lutter contre la division du travail en art, ça signifie quoi? Ça signifie ne pas déléguer aucune des parties de ce qu'on fait à quelqu'un d'autre. Et donc, à peu près au moment où je faisais cette recherche sur les photographies, je me mets à travailler sur les outils de la peinture. Et je lis des manuels, etc., des vieux manuels, c'est un célèbre manuel de Benvenuto Cellini, qui est un sculpteur joaillier
italien,
voilà l'orfèvre, et je commence à lire tous ces vieux manuels sur comment les peintres de la Renaissance, et d'avant d'ailleurs, fabriquent leurs outils de travail, et j'apprends toutes les techniques, fabriquer les pinceaux, fabriquer les supports, fabriquer les couleurs, fabriquer les vernis, et j'apprends tout ça en me disant... L'objectif serait le suivant, c'était une hypothèse de travail. Qu'est-ce qui se passerait si tu étais jeté comme Robinson sur une île déserte? Qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses pour pouvoir commencer à peindre?
Et alors?
Et alors, j'ai tout appris. Donc, à l'époque, là, je saurais
plus. Donc, la tempéra,
toute la fabrication avec les outils du bord. Trouver les couleurs, dans la nature, trouver les vernis, trouver les outils pour faire les vernis dans la nature, etc. Et donc, j'ai appris toutes ces techniques. Et donc, parallèlement au travail que je faisais, qui était un travail de sociologue, que je traduisais dans ma peinture, je devenais capable d'utiliser tous les instruments. Et pendant plusieurs années, j'ai consacré mon énergie à ça. Enfin, plusieurs années, ça a été 2 ou 3 ans. Et puis, ben, pendant cette période, il se trouve que j'ai eu ma première exposition, c'était en 1975. Bon, enfin, c'était une exposition dans une petite galerie de la Chaux-de-Fonds. Ça ne m'a pas servi à grand-chose. Et puis, il m'est arrivé encore, vous savez, la vie... Il faut pas être pessimiste, il faut être comme ça. Mmh. La vie est faite de rencontres absolument inattendues. Et je dirais inattendues...
C'est fertile, souvent.
Voilà. Et donc, j'étais toujours un peintre sans galerie. Hein. Donc, un peintre qui... J'avais des amis qui m'achetaient un truc de temps en temps. Mais bon, il ne faut pas pousser non plus. Donc, je n'avais pas d'existence en tant qu'artiste. Et d'ailleurs, à l'époque, je ne disais pas que j'étais artiste. Je disais, je suis un sociologue qui fait de la peinture.
Ah, c'est intéressant, ça.
Ben, parce que, d'une certaine façon, je pense, et je pensais, et je pense encore... que c'est mon idée d'autonomie. L'artiste doit assurer sa subsistance par ce qu'il fait, exactement comme n'importe qui. Et c'est pas plus. C'est pour ça que moi, je suis toujours un artiste méfiant à l'égard de la subvention. Hein, donc, je pense que l'art de subvention, c'est autre chose. Alors, bon, toujours est-il qu'à ce moment-là, voilà, j'étais revenu à Paris, j'habitais, à l'époque, le Marais était un quartier en déshérence. C'est pas, quand on le visite aujourd'hui, on voit que c'est pas tout à fait la même chose. Mais c'était un quartier dans lequel, tous les ateliers et toutes les usines, c'était le quartier le plus industriel de Paris jusqu'aux années 50, hein. Il y avait plus de gens qui venaient travailler dans le Marais que de gens qui habitaient jusqu'en 1955.
Ça a bien changé aujourd'hui.
Il y avait des usines, il y avait beaucoup d'ateliers de confection. Et donc, en 1974, quand je reviens à Paris, je trouve un ancien atelier de pantalonnier au troisième étage d'un hôtel particulier en ruine de la fin du XVIIe siècle. Je m'installe là, hauteur sous plafond 4,50 m, 40 mètres carrés, ni salle de bain, ni cuisine, toilette au cinquième, collectif pour tout l'immeuble. Donc voilà, c'était la belle vie, c'était la vie d'artiste. Et donc je m'installe là, et je travaille, pas de téléphone, je pouvais pas me payer de téléphone. Bref, je vis une vie sobre, obligée, mais sobre. Et puis, bon voilà, je vais faire mes courses, il y a un marché au rue Saint-Antoine, à quelques centaines de mètres de là. Et puis je passe, en allant au marché, je passe régulièrement devant un endroit assez bizarre, qui s'appelle Galerie Jean Perrol, mais qui expose des choses assez marrantes, qui m'intéressent. Et puis je passe, puis une fois, en revenant du marché, c'était en 1976, je crois, fin 76, j'entre. Et puis je dis, ah, vous êtes une galerie, puis je regarde ce qu'il y a au mur. Et puis le type, c'est un type tout rondouillard, sympathique, extrêmement bavard, difficile d'imaginer plus bavard. Et puis il me dit, ah, mais oui, on se m'asseye. Il me dit, asseyez-vous, vous voulez un café? Bon, bref, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ah, je lui dis, ah, je fais de la peinture. Ah bon, vous faites de la peinture? Mais ça m'intéresse.
Mais montrez-moi.
Et il me dit, oui, venez. Ah, mais il me dit, ah, mais ça m'intéresse. Est-ce que vous êtes libre demain? Est-ce que je peux venir voir ce que vous faites? Il vient et il me dit en partant, ça serait bien si je pouvais exposer ce que vous faites. Et donc, j'ai exposé pour la première fois à Paris, chez ce type qui s'appelait Jean Perrol, et dont l'histoire est assez intéressante, parce que c'est l'histoire du désir. Ce type-là, fils d'un coiffeur perruquier, qui a un très gros salon à Paris, boulevard Magenta, à l'âge de 20 ans, son père lui dit, lui c'est un type qui adore l'art, qui collectionne, qui aime les écrivains, son père lui dit, tu reprends le salon. Et donc, je ne sais plus à quelle date, c'était des années 30, je pense, ou fin des années 30, je ne sais plus quand c'était. Bref, il reprend le salon, et puis, donc, il met une croix sur ses désirs, il collectionne, il fréquente les écrivains, puis à l'âge de 52 ou 53 ans, il dit à ses fils, voilà, vous reprenez le salon, il fait la même chose à ses fils que son père lui a fait, je vais ouvrir une galerie d'art. Et donc, il ouvre cette galerie, et dans cette galerie, j'ai rencontré Raymond Queneau, l'écrivain, parce que son fils exposait. J'ai rencontré Georges Perec, parce que c'était un ami de ce galeriste, et pas mal d'écrivains et d'autres gens donc, comme ça. Voilà, c'était un endroit absolument formidable et un type absolument généreux. C'était pas un immense vendeur, j'ai connu mieux, mais c'était l'homme qui m'a permis d'arrêter de dire « je suis un sociologue qui fait de la peinture » et de dire « je suis un peintre ».
Mais alors, ce qui m'intéresse, pour rebondir, mais rapidement, parce qu'on arrive déjà à la fin du quatrième épisode et il y a encore tellement de choses à raconter lors du cinquième, donc il va falloir faire vitesse rapide ou une synthèse incroyable en Wolf. Quand vous dites justement que l'artiste doit être autonome de A à Z, là, le fait d'avoir un collectionneur qui pousse votre œuvre à l'extérieur à la vente, on n'est pas loin, on n'est pas encore dans le marché de l'art, mais ça, ça ne vous dérange pas, cette diffusion-là?
Au contraire, ça ne me dérange pas. Moi, je pense que c'est ça la clé. Hein, il faut rester maître de la manière dont on distribue. Il y a beaucoup d'artistes qui se sont attachés à ça. Mais finalement, vendre un objet à quelqu'un parce que cette personne le désire, une bonne ou une mauvaise raison, ça n'a pas d'importance, c'est beaucoup mieux que de le vendre à une commission qui décide ça pour des raisons qui échappent au désir. Alors moi, j'ai toujours pensé que c'est bien si on est acheté par un musée, c'est formidable, ou par une commission d'État, ou etc. Ça, c'est bien. Souvent, il y a des individus dans ces endroits-là qui se comportent comme des collectionneurs. Mais le mieux, quand même, c'est cette rencontre, c'est ce contrat qu'on passe à deux, entre quelqu'un qui fait et quelqu'un d'autre qui réalise lui aussi un désir en vous achetant ce que vous faites. Voilà, je pense, c'est pour ça que je me suis toujours efforcé de vivre de gens qui sont à la fois ou des collectionneurs ou simplement des acheteurs. des acheteurs qui font un achat unique, comme c'est très souvent le cas, hein, qui ne sont pas forcément des collectionneurs, mais des amateurs. Oui, je pense que c'est mieux.
On va se quitter en musique. Quatrième musique pour ce quatrième épisode, Laurent Wolf.
On va écouter une sonate pour orgue de Jean-Sébastien Bach par Marie-Claire Alain. La raison pour laquelle j'ai choisi ce disque joué par Marie-Claire Alain, c'est que ce disque que j'adorais, que j'avais depuis plusieurs années, où la musique est structurée, elle comble les désirs d'équilibre, m'a provoqué une émotion complètement indirecte. J'écoutais ce disque avec à côté de moi mon fils Sébastien, qui avait, je pense, deux ans et demi. Et puis voilà, j'étais en train de peindre dans mon atelier. Il était là, pas loin de moi, la musique tournait. Puis la musique s'arrête sur une note tenue, une note d'orgue, de tuyau d'orgue tenu. Il y a un silence. Et tout d'un coup, j'entends exactement la même note. Je me dis, c'est bizarre, d'où vient ça? Je me tourne et je vois que c'était mon fils de 2 ans et demi qui avait émis cette note parfaite.
Eh bien, on va l'écouter. À demain.
Au revoir.
Thank you.